Rencontre avec Johan de l'association de Capoeira Toulouse. Il propose des initiations à la capoeira pour les enfants. Le 17 mars 2014, il est venu expliquer aux enfants de la calandrette de Castanet Toulousan ce qu'est la capoeira et répondre à leurs questions, avant de les initier à cette danse et à cette musique du Brésil. On l'écoute.
Je me présente, je m'appelle Johan. Vous savez, hein. C'est vrai qu'il y en a... Toi, je te connais déjà. Après, je donne des cours ici à Castanet, c'est pour ça que j'en connais déjà certains. Levez la main ceux qui savent ce que c'est la capoeira, pour voir si vous avez déjà une idée un petit peu ou pas. Donc la capoeira, c'est une activité culturelle un peu particulière parce qu'elle regroupe plusieurs activités. C'est-à-dire que quand on fait de la capoeira, on fait pas qu'une chose. Par exemple, si je fais joue aux fléchettes, ben je lance des fléchettes. Si je fais du foot, je tape dans le ballon. La capoeira, en fait, on fait plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire on fait des mouvements, on fait de la musique, on chante, on tape des mains, on s'amuse, on se fait des blagues. Donc il y a plein de choses qui viennent se mélanger. C'est pour ça que c'est dur d'expliquer vraiment ce que c'est la capoeira. Et que tant qu'on n'en a pas fait, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est. Ok ? Donc aujourd'hui, je suis venu pour vous faire découvrir la capoeira. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc ça va être sous forme de jeu. On est là pour s'amuser. La capoeira aussi, on apprend en s'amusant. C'est pas quelque chose qui... Voilà, il faut faire comme ça, il faut faire que comme ça, sinon c'est pas bien. Donc j'espère que vous allez apprécier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là aussi pour ça. Donc, je vais juste parler d'une chose très très importante dans la capoeira, qui est la culture de la capoeira. Ok ? Est-ce que vous savez d'où ça vient déjà la capoeira ?
Du Brésil.
Du Brésil. Alors il faut savoir que la capoeira, c'est pas né au Brésil, mais ça évolue au Brésil. Ça veut dire quoi cette phrase ? Ça veut dire que, oui ?
Ça a grandi au Brésil.
Voilà, ça a grandi au Brésil. C'est exactement ça. La racine, la graine de la capoeira, c'est une racine africaine. Est-ce que vous avez entendu parler de l'esclavage qui s'est passé dans les années 1600 jusqu'à très récemment ? Oui ?
En fait, la capoeira, c'est des personnes, comme elles ne pouvaient pas se battre, elles ont fait de la danse en genre de combat.
C'est un peu ça, t'as raison. La capoeira, c'est un peu tout ce qu'on veut, donc quoi qu'on dise, on aura toujours un petit peu raison. C'est ça qui est marrant avec la capoeira. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la capoeira a des racines africaines, mais elle a aussi des racines indiennes, parce que sur le territoire des Amériques, quand les premiers colons européens sont arrivés, il y avait déjà les Indiens. Alors les Indiens, c'est pas les Indiens d'Inde, c'est les Indiens avec les plumes, on appelle ça les natifs aussi. Donc tous ces Indiens, plus les esclaves qui sont arrivés, plus les Européens qu'il y avait déjà sur le continent américain, et plus particulièrement au Brésil, se sont rencontrés. Et cette rencontre a fait avec la lutte de classe un petit peu, la lutte pour la liberté, parce que les esclaves, ils étaient bien sûr évidemment pas libres. Ça fait un petit peu cette effervescence qu'on connaît un petit peu aujourd'hui, mieux, de mieux en mieux en tout cas. Et la capoeira a grandement participé à cet effort, d'accord ? Vous savez combien ça a duré l'esclavage au Brésil ?
Non.
Vous n'avez pas une idée ?
Non.
10 ans ?
5 ans ?
5
ans ? Ça a duré 400 ans en tout.
Ah.
400 ans d'esclavage, il y a eu. 400 ans, c'est long, hein. Donc au bout de 400 ans, les esclaves qui étaient au Brésil, c'était plus vraiment que des Africains, c'était aussi des Brésiliens. Parce que leur arrière-grand-parents, peut-être qu'ils étaient Africains, mais eux, ils étaient nés au Brésil. Donc du coup, c'est devenu des Brésiliens. Et c'est là où un peu les choses ont évolué. Okay ? Mais il ne faut pas oublier que la capoeira, ça reste essentiellement africain. De par la musique, de par le rythme, de par la façon de bouger. En fait, c'est les Africains qui ont été déportés d'Afrique jusqu'au Brésil, qui ont continué d'entretenir un peu leur rite qu'ils avaient en Afrique pour fonder la capoeira, pour développer la capoeira. Ce qu'il faut savoir, et ça je vais finir avec ce point-là, c'est que les Africains qu'on mettait en esclavage, à votre avis, est-ce qu'ils étaient d'accord ou pas d'accord déjà ?
Pas d'accord.
Pas d'accord. C'est que vous savez ce que c'est l'esclavage. C'est l'esclavage, on nous prive de nos libertés, on nous oblige à travailler gratuitement, pas de vacances, pas de week-end, on mange pas bien. C'est des conditions super difficiles, ok ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si on prenait toute la classe là, et qu'on l'emmenait au Brésil pour la forcer à travailler, on allait séparer tous les gens qui se connaissent. C'est-à-dire toi, et toi, toi, et toi, et toi, il y en a chacun un qui va au bout du pays. Et encore plus difficile, souvent les esclaves ils se retrouvaient avec des personnes qui parlaient même pas leur langue, et même pas leur culture. C'est-à-dire que l'Afrique c'est grand. Faut pas croire que parce qu'il y a deux Africains qui vivent sur le continent, ils se comprennent, ils parlent la même langue, ils ont la même culture, c'est-à-dire ils écoutent la même musique, ils regardent les mêmes choses. Donc c'est pas parce qu'on est Africain qu'on parle la même langue, ça c'est super important de le savoir. Les gens qui étaient pris en esclaves, qu'on capturait, qu'on mettait dans des fermes, plus souvent au Brésil, parce que c'était des travaux agricoles, c'est-à-dire on cultivait les champs, la canne à sucre, on s'occupait des animaux. Et bien ces gens-là, ils parlaient pas la même langue que leurs copains qui travaillaient avec eux. D'accord ? Donc ça, c'était fait dans quel but, à votre avis ?
Pour pas qu'ils se parlent.
Déjà, pour pas qu'ils se parlent, mais se parler, enfin ne pas se parler, ça empêche quoi ?
Pour pas qu'ils...
S'échappent.
Exactement.
Voilà,
pour pas qu'ils fassent un plan, pour pas qu'ils s'organisent, parce que si on parle pas la même langue, c'est difficile de se comprendre, et du coup, c'est difficile de dire, eh ben, demain, à tel endroit, tu feras telle chose. Ça, ils pouvaient pas se le dire, donc du coup, c'était très difficile de programmer des plans pour pouvoir s'échapper. Donc, au fur et à mesure, quand même, au bout de 400 ans, ils ont tous commencé à parler portugais. Donc, on verra aussi ça, les chants de capoeira qui sont très très importants dans la capoeira. Parce que la culture africaine, c'est une culture orale. On appelle ça une tradition orale. C'est-à-dire que les gens, ils savent pas forcément lire, ils savent pas forcément écrire. Du coup, pour se raconter des histoires, pour pas les oublier, ils peuvent pas les mettre dans les livres. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils les chantent. Et en chantant les histoires, eh ben, hop, on n'oublie pas ce qui s'est passé là, on n'oublie pas telle personne, on n'oublie pas telle chose et tout ça. Donc voilà, et la capoeira, je vais vous en parler un petit peu maintenant, comme ça on va prendre un petit peu d'avance sur l'activité. En fait, elle est née de la nécessité de gens et de cultures de langues différentes de quand même s'amuser ensemble, parce que ces personnes-là, elles étaient capturées, elles étaient mises dans les fermes, mais c'est pas pour autant qu'elles arrêtaient de vivre, d'accord ? Donc quand elles étaient avec quelqu'un, par exemple, c'est comment ton prénom ?
Alexis,
viens là. On va dire qu'Alexis, c'est un pote à moi. On est esclaves tous les deux dans la même ferme, ok ? On n'a pas de ballon de foot, on n'a pas de ballon de basket, on n'a pas de crayon, on n'a pas de papier. Donc la seule façon de pouvoir s'amuser, c'est avec notre corps, ok ? Je peux pas lui faire une passe avec un ballon invisible. Donc je vais vous montrer comment la capoeira a démarré, ok ? La capoeira, elle a démarré par un jeu, comme ça en fait. On était là, je regardais Alexis me regardait. Là, je fais comme ça. Là. Tu fais quoi si je fais ça ? Si je fais ça, tu fais quoi ?
Tu lèves le pied. Ben, tu lèves le pied, Alexis.
Oui.
Ah, je pense que je comprends.
Et voilà, la capoeira, c'est né comme ça. Vous avez vu, on se fait un petit peu des blagues. Et après, ça a évolué. Maintenant, c'est plus acrobatique, c'est plus physique. Mais c'est juste, voilà, essayer de trouver une interaction sociale. L'interaction sociale, c'est l'interaction entre deux individus. Ok ? Je lui fais une blague comme ça. J'essaie de. Hop ! Est-ce qu'il répond ? Est-ce qu'il répond pas ? Voilà, le jeu commence comme ça. Après, chacun est libre de répondre comme il veut. Donc ça, c'est super important aussi. Oui.
Mais la capoeira, c'est pas un sport de bagarre.
Alors la capoeira, ça c'est une très très bonne question. Au début, non, parce que Alexis, c'était mon copain, merci, tu peux être à soi. Les capoeiristes du début, en fait, tu vois, ils étaient dans la même galère. C'est-à-dire que quand on est esclave, tu vois, si on est une vingtaine d'esclaves, mon but, c'est de pas forcément faire mal aux autres. Parce que si je fais mal à Alexis, est-ce que ça sera encore mon copain demain, peut-être ? Si je lui mets une grosse gifle dans la tête comme ça, tu seras encore mon copain demain ou pas ? Non. Donc déjà, je suis esclave. Déjà, je vis dans des conditions très très difficiles. Donc le but du jeu, c'est d'apprendre à rigoler ensemble, mais c'est pas de me faire des ennemis, ok ? Donc si je fais comme ça, là, pour lui mettre une grande gifle et qu'il n'a pas le temps de répondre, eh bien du coup, ce sera plus mon ami. Et au bout d'un moment, si je fais ça avec tout le monde, je serai tout seul. Et là, ça sera encore plus difficile pour moi. Les esclaves, ils ont vu qu'en faisant ces jeux comme ça, ils développaient des facultés qui leur permettaient de s'organiser pour s'enfuir, mais de s'organiser pour vivre aussi différemment. C'est-à-dire que vous allez voir, la capoeira, ça développe les réflexes, ça développe l'agilité, l'équilibre, ça développe plein de choses qui peuvent nous servir en dehors de la capoeira. Par exemple, un très bon joueur de capoeira, ça pourra faire un très bon joueur de foot, ça pourra faire un très bon danseur, ça pourra faire un très bon... Ça pourra faire un... Voilà. La capoeira, en fait, c'est quelque chose qui nous apprend des choses pour s'en servir autre part. La capoeira, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire si je fais de la capoeira, c'est pas le but final de savoir faire de la capoeira. Le but final, c'est d'apprendre des choses qui vont me servir dans la vie, de tous les jours. Je traverse la route, il y a une voiture qui arrive vite, hop, je me pousse, des choses comme ça. Et les esclaves, ils s'en ont servi pour pouvoir se libérer, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient là, qui les surveillaient pour pas qu'ils s'enfuient. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Il les surveillait, mais il les surveillait pas toute la journée, parce que même si l'esclave s'enfuyait, il n'avait pas de maison, il n'avait pas à manger, il n'avait rien du tout. Donc du coup, pour lui, c'était difficile de survivre s'il s'échappait. Mais il y en a beaucoup qui l'ont fait, et grâce à la capoeira, si tu veux, par exemple, on va avoir un coup de pied qui s'appelle Melody Compass. Ce coup de pied, il a été fait. T'as vu, Alexis, j'ai encore besoin de toi. T'as vu, Alexis, c'est bon, il commence à faire les esquives. Tu peux les faire plus, hein. Tu peux les faire plus, hein, parce que regarde, si je vais vite. Comment tu fais pour pas que je te touche ?
Baisse-toi.
Te laisse pas faire, Alexis. Ouais, voilà, c'est parti. C'est parti, il a compris. Hop, hop, hop. Le jeu, il est parti comme ça. Après, il y a eu des coups de pied. Hop, il évite mon coup de pied. Hop, il évite mon coup de pied.
Ça, j'ai bon souvenir.
Et je vais vous montrer un coup de pied qui a été inventé par les esclaves et qui est très, très efficace. Des fois, les esclaves, ils se faisaient fouetter, ok? Donc ça, il faut le savoir, quand ils faisaient des bêtises, même des fois, ils faisaient pas de bêtises, le maître, il est pas content, il est rentré, il se faisait fouetter. Donc Alexis, il va faire semblant de me fouetter. Vas-y, fais semblant de me fouetter. T'imagines, t'as un fouet, tu me fouettes. Donc le premier réflexe, c'est je vais protéger ma tête. Je vais me retourner parce que autant le prendre sur le dos, ça fait mal, très mal. Mais autant le prendre sur le visage, ça fait encore plus mal, un coup de fouet, ok? Donc le premier réflexe, c'est je me baisse comme ça. Et le deuxième réflexe que les capoeiristes ont découvert à force de s'entraîner à jouer, faire ces petits jeux, ah, je t'embête, ah, regarde ici, ah, regarde là. Ils ont trouvé ce coup de pied, vas-y, fouette-moi. Du coup, je me protège et après, je fais un coup de pied comme ça. Là. Donc là, je vais très doucement, mais si je vais vite, c'est-à-dire hop et bam, ça, ça peut faire très mal. Et du coup, ça peut faire soit tomber celui qui est en train de me fouetter, alors soit ça peut un peu le sonner. Et quand il est sonné, je profite pour m'échapper, ok? Il y a un truc très important, c'est que les esclaves qui étaient dans les fermes, parce que la majorité des esclaves, c'est dans les fermes qu'ils étaient, quand ils s'enfuyaient, parce qu'il y en a beaucoup qui s'enfuyaient, ils ont réussi à former un village autocratique. Alors un village autocratique, c'est-à-dire c'est un village qui vit par lui-même. C'est-à-dire c'est pas un village dans un pays où il y a un président, voilà. Dans le village, il y avait un roi. Ce roi s'appelait Roi Zombie. Et ça, on le sait parce qu'il y a eu beaucoup de chansons et ces chansons qui nous ont permis de savoir ce qui s'est passé. Il y a même eu des recherches maintenant technologiques et tout ça qui nous ont un peu ouvert les yeux sur certaines choses. Et ce roi, en fait, il s'est échappé de la ferme où il était esclave. Il est parti vivre dans la forêt. Alors, quand il est parti vivre dans la forêt, c'était pas Mowgli. Hein, c'était, il vivait pas avec les animaux. Il a fait des cabanes, il a fait des maisons en bois, il s'est débrouillé pour chasser, il s'est débrouillé pour faire plein de choses. Et à la fin, enfin, au milieu de son règne, au plus gros milieu de son règne, tous les esclaves qui étaient dans les fermes et qui étaient prisonniers, ils entendaient parler du roi zombie. Ils disaient, ouais, il y a un roi qui vit dans la forêt, qui est libre, et si on arrive à s'enfuir, on peut aller le rejoindre. Donc du coup, c'est là où la capoeira s'est vraiment développée, parce que les esclaves, ils avaient besoin de savoir faire tomber l'autre, on va voir ça tout à l'heure, ils avaient besoin de savoir mettre une balayette, de savoir mettre un coup de pied pour que l'autre, celui qui les surveillait, il soit mis hors jeu pour qu'eux puissent rejoindre la forêt tranquillement, ok? Et au plus grand de l'histoire de ce village, qui s'appelait village de Palmares, qui vivait un petit peu au nord du Brésil, à côté de Salvador de Bahia, il y avait 20 000 habitants qui vivaient dans la forêt, 20 000 esclaves qui vivaient dans la forêt. 20 000, c'était énorme, c'est énorme. Par exemple, la sous-préfecture de la Haute-Garonne, qui s'appelle Muret, je crois qu'il y a 30 000 habitants, peut-être 40 000 maintenant. Donc c'est presque la moitié d'un grand village de la Haute-Garonne. Et ces esclaves qui étaient partis dans la forêt, ils ont réussi à tenir 70 ans. Pendant 70 ans, ils sont battus avec l'armée portugaise, parce qu'au Brésil, c'est les Portugais qui étaient là-bas. Ils sont battus contre l'armée, alors que l'armée, elle avait des pistolets. Enfin, des pistolets, elle avait pas des pistolets comme maintenant, là, où t'appuies, ça envoie 5000 balles. Ils avaient des mousquets, ils appellent ça un peu comme les mousquetaires, c'est-à-dire on met la poudre, on met la balle, on tasse. Après, une fois qu'on a tiré, ben, il faut le refaire, du coup, ça dure longtemps. Voilà, ils avaient des fusils du Moyen-Âge, c'était exactement ça. Et ils étaient armés avec les armures du Moyen-Âge aussi. Alors ils n'avaient pas tous les trucs, ils avaient les plastrons, ils avaient les casques. Donc les esclaves qui étaient dans la forêt, ils n'avaient rien du tout. Hein. Ils avaient des bouts de bois, ils avaient peut-être des arcs parce qu'ils avaient réussi à faire des choses. Et ces personnes, elles ont réussi à résister aux personnes, aux Portugais qui voulaient, eux, les tuer. Parce que tous les esclaves, ils entendaient parler du roi zombie. Du coup, tous les esclaves voulaient s'enfuir. Et si les esclaves s'enfuyaient, il n'y avait plus personne pour travailler. Et s'il n'y avait plus personne pour travailler, il n'y avait plus de richesse, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus vendre la canne à sucre, ils ne pouvaient plus vendre le sucre, le café, tout ça. Donc du coup, en fait, ils perdaient de l'argent. Et la capoeira, elle a vraiment explosé à ce moment-là, parce que le roi Zumbi, c'était un très très bon capoeiriste. Il y a beaucoup de chansons qui citent un peu ses louanges, c'est-à-dire ouais, le roi Zumbi, c'était vraiment un grand roi. Et ce roi, il faisait de la capoeira, ça on le sait maintenant.
Et est-ce qu'il est toujours vivant?
Non, ça fait longtemps qu'il est mort. L'esclavage, ça s'est fini officiellement en 1890.
Oui, j'ai vu.
Au Brésil? Je crois que c'est même fini un petit peu après. Oui?
Mais c'est qui a le premier homme qui a lancé la capoeira?
Alors ça, on sait pas. Ça, c'est tellement vieux que aujourd'hui, on pourra pas avec certitude savoir exactement qui l'a mis au goût du jour. Mais ce qu'on sait, c'est que la capoeira, elle existe dans différents endroits que le Brésil. On sait qu'elle existe en Jamaïque, qu'elle a existé en Martinique, aussi en Guadeloupe. On sait qu'elle existe un peu à La Réunion sous une forme différente, sous une forme un peu plus dansée, mais assez violente aussi. C'est-à-dire que les gens, ils dansent, vraiment ils dansent. C'est-à-dire qu'ils sont côte à côte, ils dansent. Et d'un coup, bam, ils se mettent un gros coup de pied. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Je sais pas c'est quoi, ça s'appelle le merengue.
Et il y a eu une grande évolution à partir du début de la capoeira et la fin.
Alors ça, c'est une très très bonne question. Il y a eu une énorme évolution de la capoeira. Donc je vous ai dit que la fin de l'esclavage au Brésil, c'est à peu près vers les années 1900 pour simplifier. 1900, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que 1900, moi, mon arrière-arrière-grand-père, il est né avant 1900. C'est-à-dire que votre arrière-arrière-grand-père, s'il était né au Brésil, il aurait pu connaître l'esclavage. Donc c'est une histoire très récente. Ok ? C'est super récent la fin de l'esclavage au Brésil. Et aussi aux États-Unis et de formes différentes. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que l'esclavage s'est terminé, le gouvernement brésilien a voulu arrêter tout ce qui est esclavage. En fait, ils voulaient repartir sur une nouvelle base. Ils disaient, on redémarre à zéro, on oublie l'esclavage, on est tous égaux, on est tous pareils, on repart tous en même temps. Sauf que les esclaves, pour eux, ils disent non, ça se passe pas comme ça. Nous, pendant 400 ans, on a été en esclavage. Donc c'est pas quelqu'un qui va nous dire, bon, maintenant l'esclavage c'est fini, on oublie tout, qu'on va tout oublier. C'est impossible de tout oublier, ok? Même tous les peuples ont une histoire. Je pense que c'est bien de pas l'oublier, justement, pour pas refaire les mêmes erreurs. Donc ce qui s'est passé, c'est que tous les capoeiristes qui étaient attrapés dans la rue, ils allaient en prison pendant 10 ans, s'ils faisaient de la capoeira dans la rue. Pourquoi? Parce que les capoeiristes, souvent, c'était les descendants des esclaves, c'est-à-dire c'était les enfants, les petits-enfants des esclaves, qui continuaient un rituel que les esclaves faisaient à l'époque. Donc pour le gouvernement brésilien, c'est-à-dire pour le président, les ministres brésiliens, quand il y a quelqu'un qui faisait de la capoeira dans la rue, ça faisait penser aux esclaves, parce que les esclaves faisaient la même chose avant. Donc pour interdire que les gens repensent à l'esclavage, tous les gens qui faisaient de la capoeira, on les attrapait, on les mettait en prison. Pendant 10 ans. Donc du coup, la capoeira, c'est devenu quelque chose d'illégal. Donc c'est parti dans les rues, parce que c'était un peu les bandits qui faisaient ça, c'était les descendants des esclaves. À la fin de l'esclavage, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1900, il y a la reine Elisabeth... Non, Isabelle, princesse Isabelle, qui a signé un papier comme en disant maintenant les Noirs sont libres, il n'y a plus d'esclavage, donc ça a pris un peu de temps. Ce qui s'est passé, c'est que les Noirs, les Africains qui travaillaient dans les fermes, qui étaient esclaves, on leur a dit maintenant vous n'êtes plus esclaves. D'accord, mais je fais quoi maintenant, ils disaient. Ben, t'as le choix, soit tu t'en vas dans la forêt, tu fais ce que tu veux, ou soit tu continues de travailler pour moi, je te donne un jour par semaine de repos pour cultiver ton jardin, si tu veux manger des choses bonnes et tout ça. Donc du coup, en fait, l'esclavage, ça s'est pas vraiment arrêté à la fin de l'esclavage. L'esclavage, encore au Brésil, maintenant, il y a encore des restes d'esclavage. C'est-à-dire que les Noirs, les Africains... Enfin, quand on est Noir au Brésil, c'est forcément qu'on est un descendant africain. Donc au Brésil, c'est ça qui se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les personnes qui sont Noires, et plus on est Noir, plus on a des chances d'être en lien avec le continent africain, et bien les gens, ils sont mal vus. Ça existe aussi en France. Ça, malheureusement. Donc les Noirs au Brésil, même si l'esclavage est fini, eh ben, ils ont difficilement accès à l'emploi, donc c'est-à-dire qu'ils ont difficilement accès à l'argent, donc c'est-à-dire qu'ils ont difficilement accès à l'école, parce que là-bas l'école est payante, c'est pas comme ici. Donc du coup, s'ils n'ont pas d'argent, pas d'emploi, ils n'ont pas de maison, s'ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas forcément... Voilà. Donc du coup, en fait, la pauvreté, c'est le nouveau esclave après la fin de l'esclavage au Brésil. C'est une frappe de main un peu plus brésilienne. Et... Donc pour revenir à la capoeira s'est développée dans la rue parce que les capoeiristes ne pouvaient plus faire de capoeira officielle. Ils n'ont jamais pu faire de la capoeira, genre allez-y, faites de la capoeira, c'est bien tout ça. Déjà quand ils étaient esclaves, c'est pour ça que des fois on dit que c'est de la danse, quand ils étaient en train d'apprendre à se battre, ils étaient là, ils se donnaient des coups de pied. Si le fermier, le patron, il voyait qu'ils étaient en train d'apprendre à se battre, à votre avis, est-ce qu'ils les auraient laissés s'entraîner?
Ils auraient mis des colliers.
Voilà, ils auraient mis des colliers, genre, toi, tu veux t'apprendre à te battre? Alors, t'es puni, tu vas là-bas. Donc du coup, vu qu'il y avait la musique, il y avait le machin, c'était quand même une festif, j'ai ramené des instruments, je vais pouvoir vous les présenter aussi, ça c'est super important.
Cool.
Vu qu'il y avait les instruments et tout, quand les esclaves voyaient qu'il y avait le patron qui arrivait pour garder ce qu'ils faisaient, ben, ils se mettaient à danser. Et du coup, vu qu'ils dansaient, le patron regardait, il fait « Vous faites quoi là ?»« Ben là, rien, on danse, on est tranquille et tout. » Donc du coup, ils disaient « Bon, ouais, d'accord, ça va. » Mais même des fois danser, même des fois faire de la musique, c'était mal vu. Je faisais fouetter parce qu'ils n'avaient pas le droit et tout ça. Mais c'était toujours mieux de se faire fouetter parce qu'on faisait semblant d'apprendre à danser que si on montrait au patron qu'on était vraiment en train d'apprendre à se battre. Parce que le jour où j'allais vraiment me battre avec lui, ben, ça aurait pas été la même chose, quoi. Je vous montre comment 2-3 rythmes avec cet instrument. Donc le pandero, le plus simple, vous frappez pas des mains, vous écoutez, c'est le rythme comme ça. Parce que là on entend le 1-2-3, c'est facile à entendre. Un deuxième rythme un peu plus compliqué. Après avec cet instrument on peut faire des variations, c'est-à-dire je joue le rythme. Des fois, je peux faire des variations pour ajouter un petit plus. Là, je fais une petite variation. Une deuxième. Ok, et du coup, cet instrument a plusieurs trucs. Ouais, ça, c'est un secret. Donc, du coup, il y a une petite anecdote très marrante, c'est que je vous ai dit que après l'esclavage, c'est-à-dire après 1900, les capoeiristes qui étaient pris dans la rue en train de faire la capoeira, ils allaient en prison. Donc il y avait un truc de très marrant à l'époque, c'est que tous les capoeiristes, ils avaient un surnom. Par exemple, si moi j'étais capoeiriste et je connais un autre capoeiriste, on se connaît par des surnoms. Ah. Souvent quand on est enfant, on a des surnoms. Eux, ils avaient des noms d'oiseaux, ils avaient des noms d'animaux, on leur donnait des surnoms, même des fois on disait machin. Donc par exemple, Léon. On sait qu'ils s'appellent tous Léon, et son surnom, ça peut être Caméléon. Donc du coup, tous les capoeiristes qui faisaient de la capoeira avec Léon, ils ne savaient pas qu'il s'appelait Léon, ils savaient qu'il s'appelait Caméléon. Donc ça, voilà. Quand ils se faisaient attraper par la police, des fois ils se faisaient torturer pour dire « Ah, t'étais avec qui? Comment il s'appelait lui? Comment il s'appelait lui? Comment il s'appelait lui ?» Ben, le capoeiriste, il ne connaissait même pas le vrai prénom des copains avec qui il était. Ils se connaissaient tous que par leur surnom. Donc du coup, le capoeiriste qui se faisait prendre... Voilà. Il se faisait torturer, je disais « T'étais avec qui? T'étais avec qui ?» Ben, il disait « Ouais, mais je sais pas, j'étais avec Caméléon, quoi. » Qui c'est qui s'appelle Caméléon? Qui c'est qui peut, voilà. Donc du coup, il y avait beaucoup, par exemple, Zumbi, le roi Zumbi. Zumbi, c'est le bourdon. C'est le bourdon qui voit, c'est bouh. Et tous les capoeiristes, ils avaient un surnom comme ça, quoi. Donc ça aussi, c'est une façon un petit peu... Aujourd'hui encore, ça se répand. Et maintenant, c'est la tradition d'avoir un surnom quand on rentre à la capoeira. Pour répondre à ta question, maintenant la capoeira elle est libre d'évoluer, c'est-à-dire qu'il y a plein de maîtres de capoeira. Parce que dans la rue, ce qui s'est passé, c'est que la capoeira, quand ils se faisaient attraper, ils allaient en prison. Mais il y avait des clubs de karaté, il y a des clubs de judo, eux ils pouvaient faire du karaté et du judo. Parce qu'ils avaient des tatamis, ils avaient des tenues, ils avaient des ceintures, ils avaient des kimonos. Du coup, les descendants des esclaves, ceux qui faisaient encore la capoeira, ils se sont dit on va faire pareil que le karaté et le judo. Comme ça, ils pourront pas nous dire qu'on n'est pas une vraie école, qu'on n'enseigne pas des vraies choses, qu'on est encore des bandits. Donc du coup, ils ont commencé à mettre des tenues toutes blanches. Eux, ils n'ont pas mis des ceintures, ils ont mis des cordons, des cordes, on appelle ça aussi. Des cordes de couleur qui reprennent exactement les mêmes codes que le karaté et le judo, c'est-à-dire cordes jaunes, cordes oranges, cordes bleues, cordes vertes et tout ça. Ils ont commencé à essayer de commencer à s'entraîner dans des salles, au lieu de s'entraîner dans la rue. Parce qu'avant, c'est genre, ouais, regarde là-bas, il y a un petit coin, on peut s'entraîner, clac-clac, s'entraîner là-bas. Du coup, c'est devenu plus officiel. Et au bout d'un moment, le gouvernement, il n'a pas pu reculer. C'est-à-dire, il a dit, bon, mais maintenant, vous êtes structuré. C'est-à-dire, il y a une école, il y a des habits, il y a des machins et tout ça. Comme le karaté et le judo. Donc, du coup, on ne peut plus vous interdire la capoeira. Donc, maintenant, la capoeira, vous pouvez en faire. Mais ça, c'est venu il y a 60 ans, 70 ans. Donc, c'est pas si vieux que ça. C'est pour ça que maintenant, en fait, des fois, la capoeira, on ne comprend plus rien. Des fois, il y en a, ils sont en jaune et noir. Parce que ça aussi, c'est un uniforme qui s'est créé à l'époque. Un grand maître de capoeira qui aimait fort le foot, il aimait tellement le foot que son équipe de foot préférée s'était habillé en noir, en pantalon et en jaune le t-shirt. Lui s'est dit, ben moi mon uniforme ça sera ça, ça sera pas la tenue toute blanche là comme au karaté au judo. Donc du coup la capoeira ça s'est développé dans tous les sens parce qu'il n'y a pas une académie, il n'y a pas une fédération, on appelle ça par exemple. Il y a une fédération pour toutes les activités en France presque. Que ce soit le judo, le karaté, le foot, le basket, le badminton. La capoeira il n'y a pas de fédération. C'est-à-dire que les gens, ils font comme ils veulent. Ça marche par association, c'est-à-dire là, on est une dizaine, on s'associe, on fait de la capoeira. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de nous pour dire, il faut faire ça dans la capoeira, il faut que tu fasses des acrobaties, il faut que tu ne fasses pas d'acrobaties. Donc du coup, chacun le fait comme il veut. Il y en a qui font beaucoup d'acrobaties, il y en a qui font beaucoup de techniques, il y en a qui, voilà. Et donc du coup, il n'y a pas quelqu'un pour dire à la capoeira, il faut que ce soit comme ça. Et donc du coup, en fait, la capoeira, c'est...
N'importe quoi.
Voilà, c'est n'importe quoi. Dans le sens où on peut voir tout.
Comment vous avez connu la capoeira?
Alors j'ai vu un reportage à la télé quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans, 13 ans. Et la capoeira, ça existait très très peu en France. C'est-à-dire c'était vraiment pas beaucoup développé. Pour trouver un capoeiriste en France, c'était très difficile. Il y avait beaucoup de karaté, il y a beaucoup de judo, parce que ça, ça fait longtemps qu'on le connaît. Mais la capoeira, c'est tout nouveau en Europe. Je suis la première génération de capoeiristes à être formée par les Brésiliens. C'est-à-dire que mon prof qui vient du Brésil, il arrivait en France il y a 20 ans maintenant, un peu moins. Et quand il a commencé les premiers cours de capoeira, en fait, j'étais un de ses premiers élèves. Donc du coup, ça fait de moi le premier Français, un des premiers Français à être formé par un prof brésilien. Donc du coup, la capoeira, c'était une activité, même encore maintenant, on ne sait pas trop où c'est qu'il y a de la capoeira, qu'est-ce que c'est la capoeira exactement et tout ça. Oui.
Ça vient d'où le nom, capoeira?
Alors capoeira, ça c'est aussi marrant parce que tradition orale, il y a plusieurs façons de voir la chose, quoi. Il y en a qui disent que capoeira, en fait, c'était dans les ports. Parce que, en fait, les ports, à l'époque, c'était un peu le Facebook, l'Internet de l'époque. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet. Donc, pour se parler, pour échanger des idées, il fallait voir les gens. Et là, on voyait les gens, c'était dans les ports là où il y a les bateaux. Parce que là, tous les gens, ils venaient d'Afrique, ils venaient d'Europe, ils venaient des Amériques, des États-Unis. Et c'était un endroit où on pouvait se parler et dire, ah ben, tiens, dans mon pays, c'est pas ça, tiens, dans mon pays, c'est pas ça, tiens, dans mon pays, c'est pas ça. Donc c'était un mélange culturel et d'idées qui se passaient dans les ports. Et dans les ports, en fait, souvent, il y avait un petit endroit où ils entreposaient les poules. Ils entreposaient les poules et ça faisait une espèce de U avec les cages. Et les cages, elles montaient assez hautes. Et ils appelaient ça capoeira. Donc du coup, apparemment, il y a des esclaves qui s'entraînent... Enfin, des esclaves. Des personnes qui s'entraînent à faire la capoeira dans les ports. Et c'est pour ça qu'on appelle capoeira. Il y a aussi une autre version. C'est que les Indiens d'Amazonie, ils appelaient capoeira les clairières, c'est-à-dire là où l'herbe est rasée, quoi. Et la capoeira, en fait, c'est devenu un peu un endroit mythique. C'est-à-dire que les gens, quand on leur demandait où ils allaient, ils disaient « Ah, ben, je vais à la capoeira là-bas ». Et souvent, en fait, c'est dans les clairières que les esclaves tendaient les pièges pour les personnes qui essayaient de les chasser. Parce que dans les forêts, c'était un peu dur de savoir où ils allaient passer. Dans les clairières, en fait, on leur faisait des chemins, on leur tendait des pièges. Et souvent, ils disaient « Ah, ben lui, il s'est fait avoir à la capoeira », c'est-à-dire dans la capoeira, dans l'endroit, dans la prairie là-bas, quoi. Et le nom, apparemment, il aussi restait. Il n'y a pas de certitude exacte, il y a plusieurs façons, il y a même d'autres choses encore. Hein. Mais c'est les deux plus plausibles explications. Quoi. D'accord. Et du coup, je la suis. Je peux faire une variation. Mais après, je reviens dans le 1, 2, 3. Merci, c'était super bien. Alors cet instrument, c'est le plus vieil instrument qui existe aussi. Alors cet instrument, ça s'appelle berimbau au Brésil. C'est un instrument qui vient d'Afrique, mais qui est très vieux, vraiment très très vieux. C'est un des premiers instruments qui s'est fait avec les tambours en même temps. C'est le chef des instruments, c'est-à-dire que c'est lui qui commence à jouer de la musique, c'est lui qui dit le rythme, la vitesse où il faut jouer, et c'est lui qui arrête la musique. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de faire ça, les autres, normalement, ils n'ont pas le pouvoir. Les hommes préhistoriques, ils savaient déjà faire des arcs. Et je pense que c'était pas très loin de la même technique pour faire des arcs à l'époque, ok? Sauf que le fil de fer, parce que ça c'est un fil en fer,
aïe.
C'était pas un fil de fer, c'était des tendons d'animaux qu'ils prenaient, genre les tendons du genou, parce qu'il y a des trucs, ils les mettaient, ouais, voilà, c'est pas très...
C'est une guitare ancienne. Ah non.
C'est comment ton prénom?
Lou.
Lou, elle a dit quelque chose de très vrai, ça c'est l'ancêtre de la guitare. Ça s'appelle une calebasse. Alors je vais vous en montrer une à l'état naturel, pas peinte. Et je vais vous montrer comment ça marche. Alors ça c'est un instrument très difficile à jouer. Parce que... Enfin c'est très facile à apprendre, mais c'est difficile à tenir. Parce que quand on le tient, en fait, on le tient qu'avec le petit doigt. Je mets le petit doigt ici, je mets les trois doigts ici, et je le tiens en équilibre. C'est-à-dire qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, on est comme ça. Après, quand on a un peu plus l'habitude, on le tient. Ça se joue avec une baguette. Et alors ça, c'est fait pour accompagner. Donc c'est l'ensemble de la guitare et ça se joue comme ça, avec un caillou.
C'est bizarre.
Alors le caillou, il sert à varier le son. Si je mets pas le caillou, ça fait ça. Vous entendez? En fait, ça vibre. Écoutez. Ok, donc si je mets le caillou, quand le caillou pousse le fil, ça fait un son plus aigu. Quand le caillou enlève, ça fait un son plus grave.
En fait, je fais partie d'une association qui est basée à Toulouse, qui dépend du contremaître Vidanova, qui est mon maître depuis les débuts. Et en fait, ces élèves formés commencent à donner des cours un petit peu dans les endroits qui leur plaisent. Et moi, je suis basé à Castanet, c'est ma troisième année maintenant, et je donne des cours avec la MJC. Voilà, ça se passe super bien, les enfants accrochent. Donc voilà.
Très bien, comme on a pu le voir aujourd'hui. Et du coup, s'il y a des auditeurs qui veulent se rapprocher pour... prendre des cours ou voilà, il y a un site internet ou un contact?
Oui, voilà, capoeira-toulouse.fr, il y a toutes les infos dessus, il y a nos vidéos avec les enfants, parce que moi je donne des cours spécialement pour les enfants, c'est mon créneau, je m'occupe plus particulièrement des enfants dans l'asso. Et donc du coup, voilà, capoeira-toulouse.fr, ça vous permet d'avoir un petit aperçu du travail qu'on fait.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
A été réalisé dans le cadre de l'atelier Radio Girafe proposé par l'association Gudule et Galipette. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modification.